Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Ça y est, on est lancé, on est sur les, on est sur des rails jusqu'à la fin de la saison maintenant, donc on passe au programme.
Hein, toute chose.
Voilà. au programme cette semaine, on va parler évidemment de Zelda Link's Awakening, donc le remake de cet épisode portable qui débarque sur Switch. On parlera aussi toujours sur Switch d'Astral Chains, et puis toujours sur Switch aussi, mais aussi sur PC, de Untitled Goose Game. Oui, on va jouer à un jeu de loi. Et puis le reste du programme, vous connaissez le comme des comme, la chronique jeu de société de Jérémy Kletskin, évidemment. Et puis voilà, et puis j'ai le plaisir d'accueillir deux de mes chroniqueurs favoris. Patrick Elio, bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Et Franz Durupt de Libé, bonjour Franz.
Bonjour Erwan.
Ça fait longtemps.
Ça fait très longtemps.
Hein ? Mais tu étais venu quand même l'année dernière.
Ouais, une ou deux fois.
Mais maintenant, on est dans les locaux de Libération. Enfin, on est dans les mêmes locaux que Libération. On n'a qu'un ascenseur à prendre depuis les locaux de Libération. On enregistre dans les studios de RMC. Merci à eux. Merci beaucoup.
Merci Altice.
Et voilà, on commence par toi, Patrick.
Ouais, je voudrais pas casser l'ambiance tout de suite d'entrée comme ça du podcast, mais on sait tous que l'heure est grave. Hein, on le voit en ce moment au niveau climatique. On a vu le sommet à l'ONU ces derniers jours qui inspire pas forcément confiance. Hein, c'est plutôt inquiétant ce qu'on a vu. Des scènes assez mémorables, mais évidemment le jeu vidéo, parce qu'on parle de jeu vidéo ici, ne peut pas rester de marbre face à ça, parce que le jeu vidéo, on sait que c'est pas forcément un très bon élève au niveau justement écologie, au niveau production des matières, etc., entre les boîtes, les serveurs, enfin il y a toute une liste de choses qui font que le jeu vidéo c'est pas forcément un bon élève.
Enfin, mais il y a une empreinte écologique tout à fait positive, enfin dans le sens,
oui, qui est bien là. mais j'ai envie de dire, vu l'état catastrophique de la situation, j'ai envie de dire que chaque petite initiative, j'ai envie de la saluer. J'ai envie de dire que chaque prise de parole, chaque petit mouvement dans le bon sens, il faut le saluer, il faut le souligner, même si évidemment on se demande toujours si derrière il n'y a pas ce phénomène de greenwashing. En plus, on est un petit peu aujourd'hui en campagne, non pas électorale, mais campagne générationnelle. Vous savez, quand on prépare la prochaine génération de consoles, il y a toujours des termes qui passent. Ça va être la console la plus puissante, ça va être la console la plus connectée, etc. Les choses qu'on entend depuis des années. Il faut saluer quand même, on a eu une initiative, notamment dans ce contexte du sommet à l'ONU, on a notamment Sony qui est monté au créneau en disant voilà, nous la PS5, on sait qu'elle est dans les tuyaux là, en pleine préparation, et c'est Jim Ryan, donc le patron US de Sony, qui a expliqué que la machine serait plus verte. Alors plus verte, non pas la carrosse, la carrosserie de la machine, hein, on sait encore assez peu sur le look final de la console. Non, on parle de couleur écologique, de consommation, notamment en ce qui concerne la consommation de la veille, de la console en veille. Il y a eu quelques chiffres qui sont passés donc, sur cette future PS5 qui utiliserait 0,5 watts, je crois, en veille, donc 16 fois moins qu'une PS4 actuellement lorsqu'on la laisse en veille. C'est pas bien de laisser une machine en veille, on sait qu'il faut couper l'interrupteur. Aujourd'hui, le fait est que quand on a des jeux à télécharger, etc., on laisse régulièrement la machine en veille, le temps qu'elle télécharge les jeux. Donc la veille aujourd'hui, malheureusement, elle est souvent utilisée en jeu vidéo. Donc Sony travaille là-dessus. Ryan estimait que si 1 million de personnes utilisaient cette veille améliorée, ça serait équivalent à 1000 foyers, à la consommation de 1000 foyers américains en termes d'économie, d'énergie. Donc ça, c'est plutôt très bien. Il a expliqué avoir travaillé avec des experts avec l'ensemble de l'industrie et aussi sur quelque chose moi, qui m'intéresse aussi, c'est sur l'idée de diffuser les thématiques écologiques auprès des développeurs, de mettre tout ça en scène aussi dans les jeux vidéo, c'est-à-dire intégrer totalement la question du climat dans les jeux vidéo, parce que le jeu vidéo est aussi un reflet de la société, toujours. Il est parfois politique, il est parfois engagé, et c'est important aussi qu'il reflète ces questionnements qui nous touchent tous, on est tous concernés. Donc c'est très bien que le jeu vidéo prenne position. On sait qu'il y a eu des annonces sur le prochain Football Manager aussi sur PC qui serait je crois vendu avec une boîte recyclée avec des matériaux complètement recyclés, donc c'est pareil, c'est aussi un aspect marketing, mais j'ai envie de dire chaque pas, ok, il y a un côté greenwashing qui est évident, notamment là chez Sony, parce qu'on parle next-gen, donc c'est vrai que si on lui donne un petit côté vert en plus dans cette compétition qu'on sait d'avance féroce entre les constructeurs, bah tiens, un petit ticket vert, ça sonne toujours bien. Mais j'ai envie de dire, allons-y. Et puis il y avait une initiative plus générale hein, dans ce contexte de l'ONU qui s'appelle Playing for the Planet, qui regroupe, je crois, une bonne douzaine d'acteurs du jeu vidéo, dont Sony, Microsoft, Google, aussi Stadia, qui va être aussi très concerné par les questions d'énergie, etc., de renouvellement, Ubisoft, Rovio, qui se sont tous mis d'accord pour, à différents niveaux, aborder cette question de l'écologie et de la consommation d'énergie, que ce soit au niveau matériel, au niveau des thématiques engagées. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant et qui me paraît, on ne devrait même pas en parler, ça me paraît une évidence absolue que le jeu vidéo aussi s'engage là-dedans, il fallait le faire.
Mais il y a quand même quelque chose, tu as parlé évidemment du greenwashing et on ne peut pas s'empêcher quand même de...
Encore une fois, dans cette campagne, on sait que c'est une campagne sur la prochaine génération, donc il y a ce côté marketing aussi.
Et quand même, c'est quand même eux qui ont mis en place ce système de veille dans lequel on continue à télécharger. Ouais. C'est eux qui...
Je veux dire qui, Sony ?
C'est Sony et Microsoft.
Oui, Microsoft, bien sûr.
C'est les consoles qui ont décidé, on ne va pas éteindre notre console et on va vous permettre de télécharger pendant qu'elle est éteinte et donc elle ne va pas être éteinte. C'est eux qui ont mis en place ce truc-là.
Alors, je suis d'accord.
Et ils sont en train de nous dire ce truc qu'on a mis en place... qu'on sait que ça vaut l'équivalent de... T'as dit combien ?
Alors, c'est Jim Ryan hein, de Sony qui disait...
Non, mais 1000 foyers par million de consoles,
on va dire. Alors, c'est important. Ça paraît un détail, mais on parle de...
Juste pour terminer, pourquoi ils ne sont pas remis un bouton on-off ?
Comme sur la 2, c'est ça, la PS2 qui avait
Ou
la 3 aussi,
je crois. Si ce n'est pas... S'ils sont vraiment concernés par la question, si c'est vraiment important pour eux, pourquoi... Ok, il n'y a plus ce téléchargement en mode veille, mais pour faire quelque chose pour la planète, on va faire un bouton on-off. On serait dans un questionnement qui peut être intéressant aujourd'hui.
Alors justement, je crois qu'ils vont travailler sur l'ergonomie de la console et indiquer plus facilement le fait d'éteindre la console, c'est-à-dire mettre beaucoup plus en avant le fait d'éteindre et non plus mettre en veille. J'ai envie de dire, tu vois, ces problématiques, elles relèvent de la PS4, donc il y a 5-6 ans, et j'ai l'impression que c'est une éternité. J'ai l'impression que ces questions d'il y a 6 ans, on se les posait pas. On connaît malheureusement la situation catastrophique et on sait qu'il y a le feu au lac et qu'il faut aller très très vite. Et je pense effectivement qu'en 5-6 ans, la situation, la dégradation de la situation fait qu'on n'y pensait même pas. Et je me rappelle encore de la course à la puissance, il y a encore une génération ou deux, on ne pensait qu'en teraflop, on ne pensait qu'en... Et j'ai envie de dire, c'est très bien aussi qu'on intègre tout ça et que finalement, que ce soit même dans la conception des machines. Et j'ai envie de dire, il est même... tard, effectivement, c'est tard. Et ce bouton on-off, oui, c'est une vraie question. Mais j'ai envie... tant mieux qu'il y ait une prise de conscience, et même si c'est tardif et que c'est urgent.
Et juste ce dernier point, quand même, sur cette question qui est passionnante, hein, et je pense qu'on pourrait en parler très très longuement. Il ne faut pas oublier aussi que une des principales raisons pour acquérir des téléphones plus puissants, pour acquérir des ordinateurs plus puissants, pour changer de téléphone tous les 2 ans, pour changer d'ordinateur tous les 4 ou 5 ans, pour changer de tablette, pour changer de console de jeu et tout, pour changer même de télévision. Télévision, rappelez-vous, 4K, HD,
machin. Sûr,
quel est le cheval de Troie qui impose à énormément de consommateurs,
une vitrine.
Non, c'est une incitation, c'est le jeu vidéo, c'est le jeu vidéo qui rentre totalement dans ce modèle de consommation d'objets technologiques effrénés. On n'est pas innocent dans l'histoire. Après, voilà.
Parce que le jeu vidéo, c'est toujours défini par une course à la puissance et à l'amélioration des graphismes. On en revient un peu à ça aujourd'hui, heureusement.
Et cette course à la puissance est une des armes de cette obsolescence programmée qui fait des dégâts et dont on connaît les effets depuis, c'est pas 5 ans, c'est depuis 10-15 ans que le terme est apparu. Et donc, voilà, le jeu vidéo, dans cette configuration actuelle, ça fait un petit peu rire de l'entendre tenter la conversion verte, que si on est un petit peu objectif, c'est quand même le cheval de Troie d'un emballement et d'une mise à jour technologique permanente.
On parle de volume massif, hein, la PS4 c'est 100 millions. Voilà. Alors effectivement, le moindre petite virgule d'amélioration à ce niveau-là va jouer, parce qu'on parle de volume. Si la 5 a le même succès, c'est colossal en termes d'échelle, donc ça aura un impact.
Et finalement, si Sony et Microsoft et les autres étaient vraiment verts, est-ce que la vraie annonce, c'est on ne fait pas de PS5?
Non, mais c'est... En allant au bout de la démarche, effectivement.
En allant au bout de la démarche, ou alors on recule on recule de 5 ans.
Ralentir, effectivement. Mais regarde, la solution n'est pas très claire. Tu vois, Google, on sait qu'il n'y aura pas de console hardware, ou très peu, finalement. Mais on sait que ce sera polluant aussi, parce qu'il y a les serveurs. Donc, finalement,
Stadia,
évidemment. Et voilà, donc finalement, c'est pas aussi simple que changer ou pas de console, parce que je pense qu'une PS4 est aussi très polluante, finalement.
Oui, mais c'est tout le débat. Il y a aussi un débat sur notamment les voitures électriques. Il est très connu que c'est plus écologique de garder une vieille voiture qui pollue un peu plus que de changer pour une voiture qui pollue moins, parce que le coût de production de la bagnole est polluante.
Je crois que Sony a annoncé qu'il y aurait des contenus PSVR autour de la thématique.
Formidable. Là, sérieusement, on est quand même dans
le même chose. Mais bon, écoute, il y a des annonces et j'ai envie de dire, c'est peut-être un début de quelque chose. Moi, j'ai envie d'y croire.
Allez.
Ouais, j'ai envie d'être positif ce matin.
Pense.
Ouais, moi je vais vous parler de Steam, d'une question en fait qui se pose assez concrètement, qui est la question de savoir est-ce qu'on est vraiment propriétaire des jeux qu'on achète dématérialisés sur les plateformes comme Steam.
Tous les matins, je me lève et donc, je me pose la question. C'est vrai.
C'est une vraie question quand même. La question qui vient après, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de ces jeux une fois qu'on n'en veut plus ? Est-ce qu'on peut les revendre ? Pense qu'on devrait pouvoir les revendre, et donc fin 2015 a entamé une procédure en justice contre Valve en argumentant que on devrait pouvoir revendre ces jeux puisqu'on les acquiert et qu'ils sont notre propriété au même titre qu'un jeu qu'on achète en boîte. Et donc le tribunal de grande instance de Paris a rendu une décision la semaine dernière, donc c'est Next Impact qui en a fait état. Et donc le tribunal de Paris a donné raison à UFC Que Choisir en estimant que effectivement c'était un acte d'achat unique.
Donc propriété,
qui nous rendait propriétaire du jeu,
mon contenu que j'ai acheté,
et que donc le droit d'auteur du jeu tombe à partir du moment où on en devient le propriétaire, et que donc à partir de là on devrait pouvoir le revendre,
avoir une jouissance complète du bien et pouvoir le revendre
sur le marché de l'occasion. Ouais. Alors évidemment Valve va faire appel à cette décision.
Super d'accord.
Il y avait ça, mais je crois qu'il y avait
d'accord.
Il y avait quand même une demi-douzaine de points qui posaient problème à UFC. Il y avait ça, je crois qu'il y avait le porte-monnaie aussi Steam que tu peux pas récupérer quand tu fermes ton compte, tu récupères pas l'argent que tu as posé dessus. Ouais. Voilà, il y avait toute une liste comme ça de clauses qui étaient pointées.
Ouais. Et notamment il y avait une formulation qui a été au cœur des débats, c'est que dans les règles d'utilisation de Steam parle d'une souscription.
Oui. Un droit d'utilisation. En fait,
voilà, ce qui laisse entendre qu'on souscrit un abonnement, en gros. Et donc, le tribunal dit non, en fait, c'est pas un abonnement. Vous achetez un jeu et donc, voilà, vous n'êtes pas abonné à un jeu.
Eh, Coco, on n'est pas chez Netflix. Voilà. Tu as payé tes 30, c'est 50 ça. Euros pour un jeu. Ça me paraît, oui, logique de pouvoir.
Évidemment, il faut voir ce que ça va donner au final, mais
c'est la grande question.
En admettant que ça aille au bout et que UFC Que Choisir ait gain de cause à la fin, évidemment, les conséquences de la chose sont quand même assez énormes, en définitive. Mmh. Parce que ça voudrait dire que il faudrait que Steam organise lui-même une sorte de marché de l'occasion, sans doute.
T'imagines le store? Donc, ouais. On n'arrive même pas à imaginer le store, enfin, comment il s'est transformé.
Comment ça se passe ensuite? On arrive sur la page... le magasin d'occasion de Steam. Alors du coup, le nombre de jeux vendus d'occasion est forcément limité, puisque
il
a autant de nombre de jeux que de vendeurs.
Ce sont des jeux qui ont été utilisés, qui ont été achetés.
Donc ce qui rend la question du numérique un peu absurde, en un sens.
Et puis, c'est quoi un jeu vidéo dématérialisé d'occasion? C'est quoi concrètement?
Voilà,
c'est un jeu qui a des sauvegardes déjà dessus. Ouais. Parce que autant en boîte, c'est simple. Tu vas en magasin, tu veux un jeu neuf, il est sous blister avec le petit liseré qui va bien quand tu veux te faire plaisir. Ou t'es collectionneur, tu t'achètes un jeu neuf. Ou tu vas te dire, je vais le payer 30% de moins, mais je l'ai d'occasion. Il est peut-être un petit peu abîmé ou pas, je vérifie. Là,
c'est le même. Il est dans le même état que le moment où il a été acheté neuf.
Ouais. Donc, c'est la question, qu'est-ce qu'un jeu d'occasion en ce cas-là? Est-ce que c'est lié plutôt à une temporalité, genre, le jeu est sorti depuis tant de temps, et là, on estime que il arrive sur le marché de l'occasion parce que ça pose pas mal de questions.
Ça pose aussi des questions économiques assez concrètes, par exemple pour les studios indépendants.
Clairement.
Parce qu'un jeu indépendant qu'on paye 15 euros, s'il se retrouve après sur le marché de l'occasion à 8 euros, du coup, c'est comme s'il y avait une promo dessus. Mais donc ça veut dire que...
Parce que tout ça va se cumuler.
L'éditeur ne retouche plus d'argent dessus, donc pour les studios indépendants, je pense qu'ils peuvent se sentir légitimement menacés par ce genre de choses.
C'est peut-être là où il y a des réglages à faire.
On sait que, de toute façon, la question du marché de l'occasion autour des dématérialisés ne concerne pas que le jeu vidéo. Il y a eu des class action ou des procès, en tout cas, sur iTunes aussi, à l'époque, où on achetait à l'époque où on achetait encore sa musique au morceau. et c'est une question globale qui pose un problème. Moi, je vous avoue, je ne sais même pas ce que je pense.
Erwan Cario, tu ne sais pas ce que tu penses.
Non, j'ai pas d'avis parce que intuitivement, alors c'est idiot, mais intuitivement, je me dis, c'est bizarre ce truc de penser que un truc dématérialisé, le mot occasion, c'est vrai que. Comme tu le disais, Patrick, on a l'impression que c'est lié à un truc un peu usagé.
Oui. Et c'est d'ailleurs même un parti pris. Enfin, moi, j'aime aussi acheter de l'occasion parfois, parce que je me dis, même au niveau écologique, c'est tout simple, mais c'est un jeu qui a déjà été utilisé, c'est pas de la fabrication. T'as ce petit côté, je fais une bonne action presque de prendre de l'occasion, de renouveler un jeu. Là, on n'est pas dans le même schéma.
Donc du coup, là, ça pose des problèmes. Après, évidemment, il y a la question des créateurs, des studios indés.
C'est vraiment important.
Après, il faut pas que les studios, les petits studios indés, servent encore une fois d'excuse, parce que c'est pas les studios indés qui vont en pourcentage de chiffre d'affaires souffrir le plus entre guillemets.
On en parlait juste avant. On en parlait un petit peu avant, Erwan, c'est vrai qu'il y a les promos, par exemple sur Steam, et on sait que ça, il y a un vrai phénomène d'attente d'achat lié aux soldes qui sont... C'est vraiment ancré dans les actes d'achat aujourd'hui.
Et mis à part quelques jeux emblématiques... qui ont une longue traîne, qui peuvent encore se vendre pendant des années.
C'est un petit club.
Et alors, c'est encore un plus petit club du côté des jeux indés. Les jeux indés qui se vendent sur la durée,
sur des années,
je pense qu'on n'est pas sur beaucoup de monde.
Donc,
il ne faudrait pas que le jeu indé serve d'excuse de paravent pour aller contre les intérêts des consommateurs.
C'est vrai, mais je me mets un petit peu à la place d'un studio, d'un petit studio petite taille qui produit son jeu, il va se poser la question.
On en a déjà parlé, sur Steam, ils ont mis en place le truc de remboursement au bout de 2 heures. What Remains of Edith Finch ou quelques autres jeux indés qu'on connaît, peuvent se finir ou qui peuvent beaucoup se jouer. On peut arriver à la moitié peut-être en 2 heures. Ça pose aussi des problèmes. Ils ont survécu. En tout cas, certains ont survécu. On sait très bien qu'il y a un gros problème. Il y a 10 000, je sais plus les chiffres, mais il doit y avoir 10 000 jeux par an qui sortent sur Steam. Que quand tu mets ton jeu, on est plus en 2012. Quand tu mets un indé débarque sur Steam, sachant qu'il y a quasiment plus de contrôle éditorial. il reste une minute et demie dans la page des nouveautés.
Tiens, une question. Concrètement, un jeu, chaque jeu d'occasion physique peut avoir plusieurs vies successives, être revendu plusieurs fois. Là, ça sera le cas ou pas, concrètement? Enfin, un fichier.
Normalement.
Qu'on parle d'une licence.
Après ils peuvent très bien dire le marché de l'occasion pour un jeu est ouvert au bout de 6 mois. Tu vois, une sorte de chronologie des médias de l'occasion dématérialisée.
C'est une vision d'esprit pour moi, parce qu'on ne parle pas d'un produit d'occasion. C'est
C'est
une licence qui est un peu modifiée en fait. C'est plus une licence qui se transforme. Alors d'un côté, j'ai envie de dire, il y a un côté inquiétant peut-être pour les studios, mais il y a un côté bénéfique pour les consommateurs, clairement.
Évidemment.
Parce qu'il va y avoir une porte qui va s'ouvrir sur des prix plus agressifs, plus accessibles. Et ça pose la vraie question de la propriété sur du dématérialisé. C'est une vraie question fondamentale. C'est-à-dire, quand tu développes ta bibliothèque de jeux, tu te dis, qu'est-ce qui va en rester dans 15 ans, quand le service va s'arrêter ou pas? Est-ce que je garde le... C'est ça le vrai fondement de la question. Voilà, où s'arrête ma propriété? Suis-je vraiment propriétaire, comme tu disais?
Quand je meurs, est-ce que ma bibliothèque de jeux...
Qu'est-ce qu'elle devient? Est-ce qu'elle va disparaître comme ça? Enfin, alors que mes boîtes de jeux, elles sont toujours là et le carton est bien là. Et non, ça pose une vraie question fondamentale sur le bien numérique.
N'hésitez pas à nous partager votre avis. Moi, pour le coup, je suis sincèrement très très curieux de savoir ce que les gens pensent de ce genre de trucs. Sur les forums officiels de Silence on Joue, j'ai pas foufié l'URL, la dire au micro, c'est complètement ridicule. Vous mettez forum Silence on Joue dans un moteur de recherche quelconque et voilà, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Dernier point quand même, il faut l'aborder parce que c'est lié aux jeux vidéo et ça a quand même fait les gros titres le week-end dernier, c'est The Event, le projet caritatif annuel maintenant de Adrien Nougaret et Alexandre Dachary, donc Zerator et Dash, qui a été lancé. Donc là, ça a duré 3 jours avec une cinquantaine de streamers qui ont diffusé non-stop sur leurs différentes chaînes Twitch, un marathon caritatif. L'année dernière, c'était ouf parce qu'ils avaient battu un record, enfin un milestone, comme on dit, un truc un peu symbolique du million d'euros dépassé. C'était pour la Croix-Rouge, je crois, ou Médecins sans frontières l'année dernière. La Croix-Rouge, c'était l'année d'avant. Et donc là, c'était pour l'Institut Pasteur et c'était absolument dingo, ils sont dépassés les 3,5 millions d'euros, record mondial quand même.
Je dis bravo, franchement bravo.
Non, mais au-delà des Games on Quick, des GDF, c'était qui sont quand même des grands rendez-vous. Donc c'est record mondial. Alors c'est pas la même formule, il y a plein de chaînes. Il y avait quand même des superstars. Il y avait Squeezie qui était là. Il y avait.
C'est bien que ces gens-là, se servissent dessus. Et je trouve que c'est.
Alors. Moi je trouve que c'est vraiment formidable. Il faut quand même qu'on parle de la face sombre. Alors c'est pas du tout la face sombre de The Event. Pour moi c'est pas The Event, c'est ce qui s'est passé un peu autour. Il y a eu des gens, notamment sur les réseaux sociaux et tout ça, qui ont pointé du doigt les streamers, alors c'était aussi peut-être le reflet du paysage des streamers français, mais les streamers étaient principalement des hommes blancs, il y avait plus de femmes que les années précédentes, mais on était encore loin de la parité, évidemment, et très très peu de gens non blancs. Bref, ça a été des gens qui l'ont dit. Ils ont pointé ça du doigt sans dire que c'était mal, sans dire qu'il fallait pas faire The Event à cause de ça, sans dire rien. Et comme d'habitude, là. Je fais des guillemets avec des doigts.
Le mot va sortir.
Je suis absolument désolé. Je fais des guillemets avec des doigts. La communauté des gamers a réagi comme elle le fait tristement d'habitude depuis. Alors je dis la communauté des gamers, c'est pas tous les joueurs.
Ouais, attention.
Je fais pas de généralité, mais c'est une sorte de mouvement de foule qui se lève où on a l'impression que les joueurs, c'est les gens de 18. Du forum 18-25 de jeuxvideo.com, quoi. Enfin, des connards homophobes et misogynes, enfin voilà, et racistes aussi parfois. Non, mais je dis pas du tout que c'est ça les gamers, mais c'est eux qui se font entendre, les gens ont subi des vagues de harcèlement absolument dingo. Encore une fois, je ne dis pas que, enfin, moi je suis très admiratif parce que là, aussi d'autres problèmes, c'est que parmi ces streamers, il y avait des gens limite. Enfin voilà, qui avait par le passé eu des positions qui étaient un peu vraiment très problématiques pour le coup. Je ne cible absolument pas Zerator, que j'adore personnellement. Je suis ses streams en dehors du The Event. Je trouve c'est quelqu'un d'incroyable et un showman et quelqu'un qui dégage une bienveillance qui est rare. Pareil pour Squeezie, l'autre star. Enfin, on sait que Squeezie est un YouTuber, un streamer vraiment hyper responsable et qui a conscience de sa propre responsabilité de figure médiatique et qui en fait pas n'importe quoi. Mais voilà, dans ces 50 plus gros streamers français, il y a des gens qui n'avaient pas ce profil-là, qui n'avaient pas cette réflexion-là par rapport à leur rôle. Donc il faut pointter du doigt ce genre de choses. Il ne faut pas dire annuler l'événement, vous avez des connards parmi vous. Hein, voilà, il y en a 50, il y a des connards.
Pour le prochain.
Mais s'il y a des gens qui pointent, ils ont le droit de le pointer. Ils ont le droit même de dire je ne donnerai pas parce que ça. Et sans se prendre des vagues de haine, il y a eu vraiment des vagues, il suffit d'aller sur Twitter, sur les réponses des gens, c'est des vagues de menaces, de, comme d'habitude, de menaces de viol, de menaces de comment on appelle ça, enfin de liker toutes les infos personnelles, c'est des gens qui ont été obligés de fermer leur compte. Il y a la communauté gamer, encore une fois, je fais des guillemets avec les doigts, désolé, mais la communauté gamer est problématique.
Tout à fait.
Voilà.
Petit truc aussi là-dessus, moi ce qui m'a amusé en quelque sorte, c'est la réaction d'Emmanuel Macron qui, du coup, quand la barre des 3 millions a été passée, a réagi aussitôt en disant que c'était inspirant. Donc, peut-être qu'effectivement, ça pourrait être inspirant au point d'avoir des politiques publiques pour la recherche aussi un peu plus développées. Parce que je trouve ça toujours étonnant quand l'État, en gros, se décharge de son rôle sur la charité. Et que,
qui vient, du coup, voilà.
Et après, qui salue la générosité des gens, très bien. Mais
peut décider de donner un peu plus que 3,5 millions d'euros à l'Institut Barthes.
Il peut être réellement inspiré aussi.
Ouais.
Tout à fait. Le com des coms de la semaine dernière, Stonga9, qui nous dit « Contrôle est le jeu de l'été à mes yeux, malgré son scénario décevant du début à la fin. Par contre, l'architecture glacée de la vieille maison est envoûtant. Certes, quelques problèmes de caméra, un manque de diversité des ennemis et des cutscenes souvent ratées nuisent parfois à l'immersion. Pourtant, le gameplay sauve indéniablement l'expérience. Jessie est surpuissante et les effets visuels et audio ainsi que la réactivité des mécaniques clavier-souris, dans son cas, rendent grisante à contrôler. Un éclair rouge dans la salle et immédiatement on fait tourbillonner un extincteur en lévitation au-dessus de sa paume dans un nuage de poussière et de papier prêt à l'envoyer dans la tronche d'un employé atteint par le HIS.
Ah, c'est vrai, dans le gameplay, on en parlait, il est jouissif, il y a un vrai plaisir à jouer à un jeu Remedy, et ça date de quelques années quand même.
Tout à fait.
Donc ça, c'est plutôt une bonne chose.
Jérémy Israël, notre chroniqueur, hein, mais qui est chroniqueur, mais aussi il est
aussi sur le
forum, il ne faut pas le censurer de sa présence sur les forums, dont il est modérateur par ailleurs. Perso, je suis comme un fou avec Apple Arcade, j'attends comme Erwan la fin des free-to-play, des lootbox et autres tunnels de rétention qui ont corrompu plus la mécanique des jeux. Un game designer sur mobile aujourd'hui, c'est celui qui sait monétiser, qui sait gérer les ARPU, c'est les revenus par utilisateur, qui sait gérer les transformations et être technique pour te rajouter des couches de frustration addictive. Ce week-end, j'ai méticuleusement et avec l'accord de mes enfants effacé tous les free-to-play de tous les iPhones et les iPads de la maison. Je les ai laissés.
j'imagine.
Je les ai laissés choisir chacun 10 jeux Apple Arcade et sur le mien j'ai installé quasiment l'intégralité du catalogue. Apple Arcade, c'est le rêve, c'est le retour du fun comme unique objectif des développeurs, c'est du vrai jeu vidéo.
Ouais, d'ailleurs, un environnement sécurisé, hein, c'est la promesse d'Apple. Hein.
Aujourd'hui, au jour où on enregistre cette émission, sort Mario Kart Tour,
tout à fait,
sur Android.
Qui est reculé un petit peu de quelques minutes, je crois. J'ai vu ça ce matin.
Nous n'avons pas vu, contrairement à ma promesse de ne plus jamais installer de jeux à free-to-play à lootbox, je ne sais pas si je vais le mettre.
On en reparlera. Pour moi, c'est tellement le jeu convivial que tu mets sur la télé à plusieurs. Enfin, on verra. On en reparlera.
J'ai du mal à me projeter dans un Mario Kart
moi aussi.
Mobile, mais bon, après.
Parce que c'est tellement pas son ADN, mais
on en reparlera. Peut-être la semaine prochaine. On va commencer. Il y avait beaucoup à dire sur l'actualité.
On n'a pas parlé de Last of Us 2 qui a été annoncé, la date, tout ça. On n'a pas parlé de tout ça. Début 2020.
Last of Us 2, petit jeu indé.
Oui.
On va commencer avec le retour de Platinum Games aux commandes d'un gros titre. Platinum Games, on les connaît pour leur dernière œuvre, Nier Automata, dont on avait longuement parlé ici. Et ils reviennent pour un titre exclusif sur Switch. Pardon.
Il n'est pas jouable en fait.
Ouais, hein, ouais, ce serait beau.
Un jeu à regarder.
On appelle ça une série télé. Pardon. Il est donc un jeu sur Switch, c'est Astral Chains. Watch out! She's not human! You're quite persistent. I can't let you catch me just yet. Astral Chain, Chain au singulier. Ah oui, j'ai noté Chains, je sais pas, peut-être parce qu'il en faut. Bref, on est en 2078 et au-delà, je vais te laisser la parole.
Oui,
tu vas nous raconter l'histoire.
On est en 2078, la Terre est visiblement pourrie par la consommation excessive de toutes les PS4, PS5, PS6. Ouais.
Et là, sur Nintendo, ils sont super propres, il n'y a pas à dire.
Et donc, on est dans un Japon futuriste.
On est même sur une île artificielle qui s'appelle l'Arche.
Voilà, c'est ça. Je dis Japon, en fait, ça ressemble beaucoup au Japon, mais on ne peut pas forcément dire que c'est le Japon. Où toute l'humanité s'est en gros regroupée, puisque c'est le seul endroit vivable, si j'ai bien compris.
Voilà, une sorte d'arche, donc modèle énorme bateau.
Oh, tout va bien, quoi.
Une île artificielle.
Tout va bien. Et donc, on incarne une police du futur qui a pour rôle de lutter contre l'invasion de ce monde par des chimères qui viennent d'un monde parallèle. Voilà en gros pour le topo. Alors, ce qui est intéressant, moi j'ai trouvé en tout cas, c'est que j'attendais pas grand chose de ce jeu à vrai dire au départ. Pour moi, Platinum Games était un peu en sourdine dans mon esprit depuis Bayonetta 2. J'avais pas fini Nier Automata. Après, j'avais vu passer les Tortues Ninja et autres Transformers. Je m'étais dit,
ah oui, c'est vrai.
Le studio était un peu en train de se perdre pour moi.
Ouais, et puis il y avait cet horizon lointain de Bayonetta 3.
Voilà.
En fait,
je s'attendais plus tellement, quoi. Et je trouve que le jeu, dès les premières minutes, dégage un truc assez impressionnant au final. La première séquence en moto dans le tunnel, on a tout de suite l'impression d'être sur un truc assez épique, en définitive.
À la Bayonetta, en fait.
Ouais, à la Bayonetta, c'est ça. En fait, on retrouve tout de suite un peu ce feeling un peu grandiose, quoi.
Qui met une mise en scène.
Avec une excellente mise en scène. En fait, c'est un jeu tout à fait sérieux et ils ont vraiment mis des forces importantes dedans, quoi. Donc le jeu est évidemment soutenu par Nintendo qui lance là une nouvelle licence par la même occasion.
C'est toujours bien ça.
Ouais. Et donc c'est un jeu qu'on doit donc à Takahisa Tora, qui est donc l'ancien lead game designer de Nier Automata. Il est supervisé par Hideki Kamiya, une des grandes têtes pensantes de Platinum Games, à qui on doit Devil May Cry.
Donc évidemment, Beautiful Joe
un bon gros CV. Ouais.
Donc, est-ce que c'est plaisant à prendre en main?
Alors, c'est très plaisant à prendre en main. Justement, si je disais ça, c'est parce que c'est un jeu sur lequel, du coup, on voit qu'on bossait c'est pas un jeu secondaire pour Platinum Games. Et donc effectivement, il est extrêmement plaisant à prendre en main. Ça, c'est quand même ce qu'on retrouve depuis Bayonetta notamment, ce feeling extraordinaire qu'on peut avoir dans les combats avec cette vivacité, à la fois c'est très vif et en même temps il faut en sorte avec le jeu des esquives, il y a un petit flash lumineux donc ça permet d'esquiver à temps, etc. Ce qui permet d'avoir à la fois beaucoup de vivacité et en même temps on n'est jamais trop perdu dans les combats à part parfois à cause de la caméra qui se fout un peu n'importe où dans les ruelles.
Oui, parce que nous sommes dans un jeu Platinum Games. Et donc, dans un jeu Platinum Games, on est perdu dans les combats. C'est aussi une marque de fabrique. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de folie chromatique, de folie d'étincelles, d'explosion de partout et tout ça. Ce qui fait le sel du truc.
Alors là où le jeu se distingue très vite des anciennes productions Platinum Games, c'est qu'en fait, la personne qu'on incarne n'est pas toute seule à se battre. Et donc, elle a pour l'aider ce qu'ils appellent une légion qui est en fait une chimère apprivoisée. Et donc il y a 5 légions
domestiquées
voilà, qui est donc apte à se battre contre ses anciennes comparses. Donc il y a 5 légions avec 5 types de gameplay différents, épée, arc, point, hache, etc. Et là où le jeu est original, c'est qu'en fait le système de combat de base qu'on découvre au début, c'est qu'en fait on se bat avec un seul bouton. Quand on est tout seul sans sa légion, on se sert que de la gâchette de droite pour taper. Et en gros, c'est tout. Et en fait, toute la profondeur du système de combat, elle vient de l'utilisation de ces légions qui sont donc rattachées par une chaîne astrale, d'où le titre du jeu. Et donc, on se retrouve à contrôler avec le joystick gauche son personnage, le héros, est tapé avec les armes de base, et le joystick droit contrôle la légion. Ce qui permet.
Oula, ouais, donc il faut quand même avoir les deux cerveaux.
Ça demande une coordination. Qui... Ça, c'est un peu étonnant à prendre en main au début parce que ça demande une certaine coordination. Il faut à la fois avoir l'œil sur ce qu'on fait de sa légion qui peut se battre un peu toute seule. Hein, mais quand même, c'est bien pour exploiter complètement le système de combat du jeu. Évidemment, il faut exploiter sa légion au maximum. Donc on peut encercler les gens avec la chaîne pour les. Pour les ligoter. Pardon.
J'ai perdu,
je ne suis pas en train de pleurer. Je ne suis pas ému parce que je raconte.
Il t'a touché ce jeu.
J'étais à bout de souffle. pour les ligoter, voilà. Donc, je ne sais plus où j'en étais du coup. Mais,
ouais, ça a l'air compliqué quand tu en parles comme
alors,
ça.
Ça a l'air compliqué. En réalité, évidemment, toute la qualité du jeu, c'est que, en fait, après avoir un peu travaillé, ça prend quand même une bonne heure, une heure et demie. Hein, mais le jeu l'amène de manière assez progressive.
J'imagine. On commence avec une très belle scène, enfin, des belles, non, mais une très bonne scène d'entraînement. Un tutoriel intégré parce qu'on commence dans les locaux, on est jeune recrue, hein, on joue des jumeaux, enfin on joue un des jumeaux,
en
fonction de ce qu'on a choisi, hein, une fille ou un garçon, et donc on s'entraîne, et donc c'est plutôt bien fait en fait, on a un peu tous les contrôles de base qui sont expliqués, et pour ceux qui ont joué à Devil May Cry 5, c'est aussi ça rappelle énormément ce personnage incroyable de V, qui était là et qui contrôlait ces créatures un peu à distance, et qui se tenait à lui-même à distance un peu de la mêlée, un peu poseur, et là on est un peu là-dedans, c'est-à-dire que tant qu'on a la gâchette droite appuyée, parce qu'on peut, contrôler un peu le déplacement de la légion.
Avec le gauche ou le droite ? Gauche.
Avec le gauche.
On maintient la gâchette gauche appuyée.
Oui, gauche.
Ça fait peur, mais j'imagine que manette en main, ça va.
Alors que moi, j'ai un peu de main gauche pour le coup, mais
ça
passe plutôt pas mal.
Ouais, étonnamment, ça passe bien.
On arrive très vite. Alors moi, il y a un truc que j'arrive pas à faire, c'est qu'il y a une figure avec sa légion. Quand il y a une chimère qui nous charge dessus, on peut tendre la chaîne et la renvoyer dans le décor. Moi, j'ai jamais, sauf en entraînement, j'ai jamais réussi à le faire.
Il faut beaucoup s'entraîner.
Mais par contre, le fait d'encercler, je trouve ça super drôle. Ça marche, ça marche vraiment très bien. Ouais. De capturer finalement une chimère temporairement et de la fixer au sol. Je trouve que ça passe très très bien. Ça marche. Ouais. On peut le faire assez facilement. En fait.
Ouais. Je trouve que notre camarade Erwan Eguinen a une assez bonne formule dans son article pour les Inrocks. Il a dit c'est un jeu de coopération entre la main gauche et la main droite. C'est vrai que c'est un jeu en coopération en fait entre deux mains.
Tu joues tout seul avec toi-même en fait.
Voilà, c'est ça. Mais je tiens à signaler quand même que ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu qui est en fait vraiment très accessible aussi. C'est un jeu qui est, je pense, vraiment conçu pour un jeune public, contrairement à par exemple Bayonetta qui est clairement un jeu pour adultes. Là, on voit quand même que c'est un jeu qui a été globalement designé pour être joué par des jeunes gens qui peuvent avoir 12 ans, par exemple.
Il n'y a pas un petit côté Robocop ? Moi, le peu que j'en ai vu, ça me... le côté...
Non, il y a le côté magique, le côté magique des chimères.
Très présent.
On est un peu dans... parce que les créatures ont un petit côté boss de Devil May Cry, entre guillemets. Enfin,
clairement dans cette filiation.
On est dans cette filiation un peu gothique, avec ce côté un peu gothique cyberpunk qui est là. Voilà, c'est un peu un mélange des genres. Ouais. Et en même temps, avec cette patte de Platinum Games, on n'est jamais dans le ridicule. Les décors sont cohérents. Il y a une sorte de cohérence générale.
Ouais, le projet se tient.
Ça se tient.
Et surtout, ce n'est pas un jeu de remplissage. C'est un peu moi ce que je craignais. Genre, c'était une commande. Il fallait Platinum.
Non, en fait, c'est pas du tout un jeu de remplissage.
D'accord,
pour dire même, ils ont même vraiment pris les choses très au sérieux parce qu'évidemment, le jeu n'est pas fait que de phases de combat. Et en fait, entre les phases de combat, comme on est policier, on mène des enquêtes.
Ah, c'est bien,
je peux pas dire que ce soit toujours les phases les plus exaltantes que j'ai faites.
C'est des missions secondaires.
Non, c'est des missions. Alors, dans ces phases-là, en fait, le jeu se divise. Je le ferai
après. C'est à ça qu'on joue un jeu comme ça, c'est les missions secondaires.
En fait, le jeu se divise. Les événements se déroulent dans deux univers. Il y a l'univers réel. Donc, c'est généralement l'endroit où on va faire des enquêtes. On va faire des missions secondaires qui vont être parfois de prêter assistance à quelqu'un qui a perdu quelque chose. Des gamins, un peu comme dans Zelda Majora's Mask, qui vont te faire une énigme pour avoir un indice, l'énigme qui va te permettre d'avoir un indice, qui va te permettre d'avancer dans l'enquête, etc.
Un chat perdu sur un arbre, voilà. Non, c'est pas ça, il n'y a pas le genre de truc.
Ce genre de choses, parfois ça peut être ce genre de choses. Ou bien ça peut être de tabasser quelqu'un dans la rue parce que juste il est méchant, il a volé quelque chose. Et à l'issue de ces phases-là, en gros, on récapitule à la fin tous les indices qu'on a. Donc là, on a une sorte d'interrogatoire un peu à la Phoenix Wright, pour comprendre, pour voir si le joueur a bien compris tous les indices qu'il a récoltés. ça n'a pas d'influence hein, si on, ouais. on se trompe et qu'en fait on n'a rien pigé à l'enquête qu'on vient de mener, c'est pas grave, ça n'a pas de conséquences dans le jeu. Et ensuite, généralement, là, le jeu passe en mode combat pur, et donc là, on se jette dans l'univers alternatif des chimères, qui est en fait une sorte de zone assez abstraite, avec des cubes,
de baston,
c'est des grands espaces abstraits, un peu comme dans Bayonetta, en fait, il y avait aussi. Et donc là, c'est vraiment la baston pure, avec quand même un peu des énigmes où il faut utiliser les légions pour déplacer, pour s'ouvrir des chemins, etc. Enfin, franchement, globalement, il y a un vrai sérieux qui a été placé dans le jeu, quoi, sur l'ensemble de son design. C'est vraiment...
Et moi, il y a un point qui, que j'ai trouvé, en tout cas, une sorte de feeling que j'ai vraiment ressenti en y jouant, que je n'avais pas ressenti depuis Breath of the Wild, ou peut-être Super Mario Odyssey, qui est cette impression d'avoir des jeux, parce que je joue en mobile, d'avoir une sorte waouh, maintenant on peut jouer à ça en mobile. C'est vrai que sur la Switch, on joue beaucoup soit à des jeux indés, soit au Yoshi Crafted World, qui a pas cet effet un peu waouh, ou alors à des remakes, cet effet waouh, ouais, on peut le retrouver
Doom 3 par exemple.
Sur Doom 3 ou sur
Ah oui, tu te dis, j'aurais vu ça il y a 5-10 ans, je serais tombé à la renverse, quoi, parce que c'est complètement inimaginable d'avoir ça. Même le Zelda Breath of the Wild.
Et là, jouer à ça dans le métro, tu fais waouh! Ouais. Et encore en 2019, la Switch n'est plus une console récente du tout, mais encore en 2019, il y a cet effet-là qui, moi, me l'a fait, ça me l'a fait vraiment sur Astral Chain.
Ça fonctionne.
Ça fonctionne, c'est efficace, c'est un jeu avec énormément de tempo, c'est rapide, et c'est, techniquement, ça tient la route. C'est-à-dire que, y a, évidemment, sur un jeu Platinum Games, tu ne peux pas avoir de chute de framerate. Ça, c'est, le truc où je pense qu'ils font un peu gaffe.
Contrairement à un autre jeu
dont nous allons parler. Mais c'est un jeu bien réalisé avec et ça se confirme, c'est ce que tu disais au début, c'est un jeu épique.
Oui, il y a vraiment un caractère épique. Même, c'est marrant, même la musique, quand on est dans le commissariat où on peut zoner pour améliorer ses légions, parce qu'il y a tout un côté aussi avec des arbres de compétences pour chaque légion, etc. Donc on peut vraiment les personnaliser.
Arbres de compétences, Erwan.
Quoi? Non, j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit.
Moi, c'est au cas où je sonde.
Non, j'ai déjà dit du mal des free to play. Une grande cause, d'accord, par émission, s'il te plaît.
Ton quota, c'est bon, c'est fait. Ok.
Attends, on a fait l'écologie aussi au début. Non, je peux pas non plus.
Moi, je suis pas très arbre de compétences à la base. Hein, mais en gros, on peut prendre un certain plaisir aussi à personnaliser un peu ses légions, à les améliorer, etc. Et quand on se bat dans le commissariat, il y a aussi plein de missions secondaires complètement loufoques, notamment avec la mascotte du commissariat, qui est une nana qui s'habille avec une grosse peluche de chien qui s'appelle Lapi. Et donc,
c'est ça qui va me le vendre. Je pense que c'est ce côté.
Ouais. C'est vrai, le jeu a un côté un peu humoristique, grotesque, un peu barré. Et donc, dans ce commissariat, il y a une musique ultra rythmée que je trouve assez étonnante. Et franchement, que je prends un certain plaisir à écouter, j'avoue, en me promenant dans les couloirs.
Voilà. Bon.
Voilà. Très, très belle surprise.
Et qui donne effectivement un côté épique au jeu, même quand on est en train de zoner dans le commissariat.
Oui, c'est pas forcément le plus à la machine à café. D'accord, ok.
Cet Astral Chain de Platinum Games, moi, c'est vrai, comme toi, j'en attendais vraiment pas grand chose. D'autant que j'avais pas été totalement convaincu par le jeu précédent et par Nier, Automata. Donc, vraiment, très belle surprise. J'aime beaucoup.
Ça n'est pas qu'un petit jeu pour s'amuser en attendant Bayonetta.
D'accord.
Quoi.
Donc, ce sera une exclue ad vitam Switch. Il n'y a pas du tout de.
Et c'est donc le moment d'accueillir la chronique de Jérémy Kletskin, la chronique jeu de société. Salut, Jérémy.
Salut Erwan, alors je me baladais comme ça sur le forum de Silence on joue, quand tout à coup j'ai aperçu un message de Je ne suis pas un robot, en un mot, qui parlait d'un jeu qu'il venait d'essayer, Dungeon Raiders. En général, j'en ai vraiment rien à foutre des suggestions sur le forum parce qu'il n'y a pas vraiment grand monde qui sait de quoi il parle. Mais bon, là, il s'agissait quand même d'un jeu de Phil Walter Harding, l'auteur de Sushigo, de Imhotep, ça pouvait pas être de la merde. Je l'ai donc commandé, je l'ai reçu, j'y ai joué, et c'est de la merde. Enfin non, c'est un ok game, enfin je m'expliquerai plus en détail à la fin de la chronique. Dungeon Raiders est un jeu de cartes et la promesse est jouissive. Et oui, vous avez des cartes donjons avec des monstres, des pièges, des trésors, etc. Vous avez les cartes aventuriers qui vous permettront de commencer l'aventure avec un petit avantage. Vous serez plus fort ou plus riche ou mieux équipé. Et enfin, vous recevrez dans votre main des cartes numérotées de 1 à 5. Et donc la partie se déroule de la manière suivante. On ouvre 5 cartes donjons, certaines d'entre elles resteront face cachée. Évidemment, si vous avez la torche, vous pourrez jeter un petit coup d'œil pour voir ce qu'il y a sous cette carte. et on commence à explorer la première carte en partant de la gauche. Les joueurs devront choisir une des cartes dans leurs mains et la dévoiler simultanément. Si c'est un monstre, le joueur qui aura tapé le moins fort recevra le nombre de blessures indiquées sur la carte. Il y a les cartes trésors qui proposeront 5 objets. Évidemment, plus le numéro sera élevé, mieux sera l'objet. Il y a l'épée d'une valeur de 5, mais qui ne s'utilise que sur les monstres. Il y a la clé d'une valeur de 5 là aussi, mais qui ne s'utilise que sur les trésors. Et puis il y a des potions pour regagner un peu de vie. Évidemment, pour chaque 5 cartes de donjon, on va utiliser les 5 cartes numérotées de 1 à 5, il faudra donc les gérer. Une fois qu'on aura exploré les 5 donjons de 5 cartes, on devra affronter un boss. Et ensuite, on regardera le joueur qui a reçu le plus de blessures, lui ne pourra pas gagner la partie. Parmi les autres, celui qui aura le plus d'or sera déclaré vainqueur. Alors oui, mon ton est un petit peu cynique. Et c'est pas parce que le jeu est nul, parce qu'il est pas nul. Il est sympa à jouer, il est rigolo et on passe un bon moment. Mais il a quand même un petit goût de carton, il est pas innovant. J'ai un petit peu l'impression d'avoir joué à la bataille. Et donc on en revient au Hockey Games, qui est un concept imaginé par Eric Lang, un des plus grands auteurs actuels qui un jour a dit « Les Hockey Games, ce sont les nouveaux Bad Games ». Le nombre de nouveaux jeux et de nouveaux éditeurs s'est démultiplié sur les dernières années. Les jeux sont longuement testés, il y a beaucoup de gens talentueux, et il n'y a quasiment plus aucune bouse qui sort. Il y a toujours mille alternatives à un jeu qui fonctionne, qui marche bien, mais qui n'a rien de nouveau. Et je pense malheureusement que Dungeon Raiders appartient à cette catégorie. S'il vous intéresse quand même, il a été réédité récemment chez Devir, à partir de 8 ans de 3 à 5 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes. Et voilà, n'hésitez pas à me dire quand même ce que vous en pensez dans le forum. Un petit commentaire, le pouce bleu, la cloche. Bye bye.
Bye bye Jérémy, quel troll.
Ah, il ne fait pas dans la demi-mesure.
Mais hein, quel troll.
Je... Là, franchement.
Bonjour aussi à Je suis un robot et à tous les forums.
À toute l'équipe, ouais.
Pour... ça, c'est... Enfin, je précise parce qu'il y a des auditeurs qui ne font pas partie de la communauté, qui ne sont pas sur les forums de Silence on Joue. Les forums de Silence on Joue sont l'endroit le plus bienveillant au monde. Ouais. Non, mais sincèrement, ouais, il y a des gens qui ne sont pas d'accord et qui arrivent à parler entre
ouais,
eux.
Ouais, c'est vrai, c'est rare.
Sans s'insulter. Bon, ouais, et des fois, même quand ils s'insultent, ils sont capables de continuer le débat. Donc voilà, pour dire que même si... Voilà,
l'ambiance bon enfant.
Jérémy a un peu trollé Je ne suis pas un robot, mais il n'y a aucune animosité là-dedans, je préférais préciser, parce que des fois, en vue de l'extérieur, pour les gens qui ne sont pas dans le forum, ça peut être ressenti comme ça. Bref, revenons en 1993. En 1993, eh bien, il y a un jeu qui sort sur Game Boy, qui est la suite d'un autre jeu, donc Link to the Past. C'est la suite, non ?
Pas vraiment.
Non, pas vraiment. Non.
Pas vraiment une suite.
Je suis vraiment nul en Zelda.
Alors, je crois qu'à la base, il devait être une adaptation de Link to the Past, et il est vraiment parti sur autre chose.
C'est ça.
C'est ce qui.
Dans le même univers.
C'est une sorte de spin-off. C'est ce qui le rend fascinant, cet épisode. Alors, je sais pas si on lance tout de suite, t'avais un son peut-être à lancer ou pas du tout ?
Ouais, non. Si, j'ai un son, mais je comprends rien.
On va tout expliquer.
Mais non, mais c'est le lore Zelda. C'est vrai Link's Awakening, il est à part. C'est ce qui en fait vraiment un jeu intéressant à aborder comme aujourd'hui.
On est sur l'île de Coco. On est bien sur l'île de Cocoline.
Tout à
pas
fait.
Pas du tout. Non, je rigole. si, c'est bien ça.
C'est donc, Zelda sans Zelda. Voilà.
C'est tout à fait ça.
Donc c'est Zelda Link.
On l'a perdu.
Oh, arrêtez, laissez-moi lancer mon jeu. C'est Zelda Link's Awakening sur Switch. Il y a quand même Link. On est d'accord. Le petit bonhomme que j'ai contrôlé, c'est
un des
c'est Link.
J'adore les musiques. Ah bah voilà, déjà peut-être d'entrée, mais je veux dire, j'adore les musiques de ce remaster. Je trouve qu'elles sont fantastiques. Des fois, je laisse même la console tourner avec les musiques en boucle. Je trouve qu'il y a des partitions hallucinantes, pleines d'humour. Il y a beaucoup d'humour.
La réorchestration
complètement
est vraiment
folle.
Superbe.
Bref, c'était un point d'entrée. Alors oui, ce Link's Awakening, il est super important dans la saga Zelda. Il est vraiment important parce que c'est à la fois un Zelda canonique et à la fois il est complètement hors Zelda traditionnel. C'est pour ça qu'il est très particulier. Il faut resituer en 93, ce jeu c'est un titre charnière dans l'histoire de la Game Boy. on parle de la Game Boy, hein, voilà, c'est fait. C'est un titre charnière parce qu'il va vraiment donner une nouvelle impulsion aux ventes. Il arrive et en fait, il va changer aussi un peu l'échelle des jeux sur la Nintendo. Il montre aussi qu'on peut avoir des jeux d'aventure au long cours avec une ambition narrative, etc. C'est une rupture dans l'histoire de cette console portable, donc quelques années après son lancement. Ça, c'est déjà important à signaler. Et puis, en termes de contenu et de conception, il est vraiment différent. C'est une sorte d'ovni dans la saga et qui va avoir un poids conséquent dans toute la suite de... C'est une forme de rupture aussi au sein de la saga Zelda. Pas seulement pour la console Game Boy, mais aussi pour toute l'histoire de la saga. Parce que comme on le disait en introduction, on est sur une île. Et puis, c'est un épisode où on n'a pas Zelda, on n'a pas Hyrule, qui est quand même l'endroit où se passe toujours l'histoire. On n'a pas de grands méchants habituels, on n'a pas la Triforce, tout ça c'est évacué. Et on part sur autre chose, avec quand même des bizarreries, hein, des apparitions de sosie de Luigi, de Mario, on a Yoshi. En fait, on a des featuring d'autres personnages Nintendo, une sorte de bug dans la matrice Nintendo, avec des entrechocs d'univers. Pourquoi ? Parce que la conception même du jeu est étonnante, en fait. Alors, pour resituer... Alors, d'après ce que j'ai pu comprendre, à la base, il était vraiment prévu comme une sorte d'adaptation de Link to the Past qui venait de sortir. Hein. C'était le dernier titre sur Super NES, le Zelda 3, qui reste un des monuments de la saga, un peu intouchable. Et en fait, l'équipe qui travaille sur cette itération Game Boy de Zelda, elle travaille un peu dans son coin. Alors même, pour reprendre des termes, c'était l'idée de faire quelque chose d'étonnant, de différent. Ces gens-là veulent expérimenter avec le format quand même très particulier de la Game Boy de l'époque, hein, avec des capacités techniques très limitées, un écran monochrome. Il faut se rappeler un petit peu quand même du contenant de la machine, de son environnement. Ils voulaient aller... Du coup, ils expérimentent sur les thématiques. Ils ont tout de suite envie d'aller vers de la parodie. Et puis, il y a Tezuka, qui est le directeur, je crois, du jeu. Alors lui, il est fan de Twin Peaks. Voilà, il regarde Twin Peaks, il aime bien l'univers David Lynch. Et il a envie aussi de donner cette impulsion au jeu. Alors ça peut paraître étonnant, hein, de secouer comme ça du Twin Peaks et du Zelda. Il faut se dire qu'au début des années 90, ça paraît pas évident, parce que Zelda, c'est quand même très scolaire, c'est intouchable même. C'est presque sur une sorte de piédestal, Zelda. C'est devenu, avec le 3 sur Super NES, une sorte de référence absolue du jeu d'aventure sur console. L'équipe, elle travaille même le soir. En fait, c'est vraiment, j'ai retrouvé des interviews où ils parlent de devoir du soir sur leur temps libre, c'est-à-dire qu'ils expérimentent vraiment. C'est un jeu de cœur avant tout, c'est un jeu d'expérimentation, d'où ce changement de décor. On part sur une île, et puis ce qui est fascinant, c'est que c'est raccord avec l'idée d'un premier Zelda portable, c'est-à-dire que cet exotisme de la thématique, on l'a même dans l'utilisation du jeu, parce qu'on y joue n'importe où, donc on n'est plus sur un Zelda qu'on utilise ou qu'on consomme dans le salon posé. Non, c'est un Zelda qu'on vit dans le métro, dans la rue. Donc il y a cet exotisme du jeu, il est très raccord avec l'utilisation même et sa conception. Donc tout ça fonctionne très bien. Et comme je disais, donc il y a cette influence Twin Peaks qui est vraiment importante pour comprendre cette bizarrerie du jeu, avec des personnages un peu barrés et tous mystérieux, qu'on ne les cerne pas tous très bien. Ils sont tous un peu chelous, ils ont des comportements bizarres. Et quand tu commences à cerner ça, tu saisis mieux cet aspect. Alors, on ne va pas spoiler, c'est un jeu qui a 25 ans maintenant. Mais tu peux comprendre l'ambiance particulière de ce jeu où tout n'est pas forcément très logique, où il se passe des choses un peu bizarres. Et tout ça en fait vraiment, encore une fois, c'est un jeu emblématique qui a, au fil du temps, c'est vrai qu'au fil du temps, il est sorti il y a maintenant plus de 25 ans, il a vraiment gagné une patine de jeu culte, de jeu révéré. Il y a un vrai aspect nostalgique. Et ce qui est important, moi je suis retombé sur des interviews de l'équipe du corps de Nintendo, comme des gens comme Koizumi qui maintenant est monté en grade, hein, chez Nintendo, qui présentait la Switch lors du développement. Lui, c'est qui a aussi apporté pas mal d'idées sur ce Link's Awakening. Et tous ces gens-là l'ont dit, d'ailleurs. Ils ont dit, ce titre-là, il a été commencé un petit peu comme un travail d'expérimentation, mais c'est un chaînon très important dans l'évolution des Zelda. Et Ocarina of Time, qui est le prochain chaînon qui a suivi, le fameux qui passait à la 3D sur N64, etc., n'aurait pas été le même sans ce jeu-là, qui a beau être une sorte de bulle narrative un peu à part, c'est une sorte de spin-off quasiment, mais qui est fondamental pour comprendre l'évolution de la série. Et il y a des ingrédients, la façon de caractériser des personnages, des ambiances qui vont rester dans la série et qui font encore partie de son ADN aujourd'hui sur les derniers. Donc c'est voilà, c'est un titre qui en impose et qui a vraiment une grosse force nostalgique. On l'a vu hein, sur les réactions sur les réseaux sociaux autour de l'annonce. On l'a vu avec les précommandes sur le collector, etc. Il y a eu une furie autour de ce jeu parce que il a 25 ans, mais c'est un souvenir de joueur. C'est souvent un souvenir de jeu dans la poche, dans sa Game Boy, et qu'on a vécu à part avec vraiment cette histoire autonome, super attachante.
Franz, tu y avais joué ? Tu as ce souvenir-là ? Rapport-là ?
Moi, c'est marrant parce que je fais partie des gens qui n'avaient pas joué à ce jeu à sa sortie. J'avais une Game Boy, mais je n'ai pas joué. Patrick a très bien raconté toute l'histoire, donc je n'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que c'est un épisode à part. Et en même temps, c'est un des plus gros succès de l'histoire de Zelda. Au total, 6 millions d'exemplaires en comptant la version DX sortie en 98.
Le remaster couleur.
Voilà. Donc, 6 millions d'exemplaires, ça le classe quand même en troisième position des Zelda les plus vendus jusqu'à la sortie d'Ocarina of Time. Et donc, c'est un jeu en fait qui est hyper important, effectivement, comme tu le disais, je pense, pour plein de jeunes joueurs, plein d'enfants qui ont dû, ça doit être leur premier contact avec le jeu d'aventure.
Et il est bien fait pour ça, d'ailleurs.
Et avec Zelda. Et donc, effectivement, c'est pour ça effectivement qu'il est sans doute si important dans la série. Et alors, tu citais Ocarina of Time, mais effectivement, c'est le jeu où on voit apparaître l'Ocarina, c'est le jeu qui commence à mettre la musique au cœur du gameplay.
Et ouais.
Voilà, c'est quand même truc qu'on va retrouver ensuite dans.
Des fils rouges qui font vraiment partie aujourd'hui
Et donc, c'est vrai que c'est très intéressant. Alors, moi, j'avais lu aussi que visiblement, le point de départ aussi, c'était que c'était un codeur de chez Nintendo, qui commençait à travailler sur un jeu de pêche dans l'univers Zelda sur Game Boy. Voilà. Et après, du coup, l'équipe dit on va essayer d'adapter Link to the Past. Et au final, ça devient ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Miyamoto ne participe
Fin de production.
Voilà, il arrive en fin de production pour donner son avis, mais globalement, tout le développement du jeu se passe sans lui.
Bien sûr, puis c'est un vrai patchwork parce que je crois que le moteur du jeu vient d'un autre titre existant au Japon. Ouais. J'ai plus le jeu, mais il y a un personnage, je crois que c'est le roi Richard, qui vient de ce jeu-là.
Tout à fait.
C'est une sorte de. C'est un miracle.
On retrouve Mr. Wright qui vient de.
Will Wright. Il est fascinant parce que c'est un miroir. Parce qu'en général, Zelda, quand tu te lançais dans un Zelda à l'époque, c'était un autre monde complètement déconnecté avec son monde à lui, le lore Zelda. Et là, c'est le titre un peu de l'ouverture, comme tu disais, avec des gros clin d'œil bien appuyé à la pop culture du gaming de l'époque, avec Mario, avec d'autres personnages emblématiques de créateurs de jeux, des citations d'autres titres. Et tout ça, on a un peu l'impression que c'était pas forcément voulu, que ça a été très organique, c'était plus une sorte de plaisanterie, d'expérimentation.
Oui, c'est ça.
Il y a un bouillonnement comme ça de citations en tous les sens, et ça fonctionne. Et surtout, le jeu, et ça reprend ce côté aussi formaté pour la Game Boy. Encore une fois, il ne faut pas oublier qu'il vient de là, il est vraiment formaté pour un écran tout petit, et avec, comment dire, par exemple, des deux boutons d'action, il est très simple. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est un bon Zelda de découverte. Et c'est pour ça que sa réédition aujourd'hui sur Switch est plutôt intéressante. Pas dénué du tout de plein de défauts.
Mais quand même, donc, les réactions à l'annonce de ce Zelda, aux premières images Zelda.
C'était peut-être ça animé, je me rappelle encore, sur le Nintendo Direct.
Et on voit cette texture, cette apparence un peu plastique, un peu jouet, l'utilisation du tilt shift, donc avec l'utilisation des flous en haut et en bas.
Qui sont un peu lassants au bout d'un moment.
Qui donnent cette impression de jouer avec des jouets.
Mise au point sur du plastique, des éléments de décor.
C'est un effet de sorte de miniaturisation des éléments. Et du coup, quand même, au lancement du jeu, c'est très fidèle à ce qu'on a vu dans les annonces. On retrouve évidemment cet univers là. Moi j'ai trouvé ça superbe, enfin vraiment très réussi au choix des couleurs, c'est super coloré, c'est super accueillant. T'es aspiré par. Moi, vraiment, c'est ce que ça m'a fait. On est aspiré par cette proposition.
Surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est le jeu d'origine. C'est-à-dire qu'il y a quelques petites modifications, mais rien de fondamental. Et c'est le jeu d'origine qui est vraiment refait. Moi, j'ai envie de dire, si le cinéma nous faisait des remakes comme ça, avec une mise à niveau, tu vois, une relecture d'un film existant, ce qui n'arrive jamais. En général, on est toujours déçu au cinéma quand un remake est fait, parce que ça marche pas, par quelques exceptions comme Scarface ou d'autres, mais c'est rare. Là, on a vraiment une réinterprétation d'un jeu original, mais tout tout en respectant le titre. La preuve, c'est qu'on voit, quand tu sèches, tu peux aller voir la Solus du jeu de 93 sur Game Boy, elle est fonctionnelle, c'est-à-dire que c'est le même jeu.
Je m'en suis servi.
Et ça, c'est pareil, il y a eu deux, trois fois. Parce que c'est pas un jeu évident,
il y a des moments dans des donjons où
tu sais plus quoi faire, ou alors tu sais plus comment activer, tu sèches parce que tu sais pas quoi faire.
Moi, j'étais bloqué sur quand il faut balancer des chevaux pour les placer bien sur des têtes de chevaux de jeux d'échecs qu'il faut balancer, et ils rebondissaient toujours de travers, j'avais pas compris c'était le principe.
Ça, ou la poussière magique, là, que tu sais jamais où l'utiliser. Et c'est là où tu vois que c'est un jeu de 93 aussi, tu vois, sur le manque peut-être d'indications. Côté un peu old school, un peu rugueux de l'époque. Mais ça, ça fait partie aussi de la proposition. C'est le jeu d'origine, et ça, c'est très bien. En tout cas, c'est une vraie remasterisation, c'est une vraie remise à niveau d'un jeu qui reste identique. Et ça, je dis bravo, parce que c'est un vrai challenge quand même de propulser comme ça un jeu d'il y a 25 ans aujourd'hui, tout en ne le transformant pas finalement.
C'est pour ça que moi je trouve que c'est une très belle proposition, parce que à moins que je me trompe, mais je crois que c'est la première fois que Nintendo met autant d'efforts dans un remake, dans une réédition d'un jeu. Jusque là, il me semble que notamment les Zelda, ils les rééditaient plutôt de façon un peu liftée, quoi. Voilà,
sans si t'avais les versions 3D de Ocarina of Time,
c'était refait, mais je veux dire le matériau était
là, il est vraiment
là, c'est vraiment recréé. Et je trouve que tu vois, justement, ta comparaison avec le cinéma, moi, je n'irai pas forcément trop sur ce terrain-là, parce qu'en fait, je trouve la spécificité du jeu vidéo dont on parlait tout à l'heure d'ailleurs, c'est cette fuite en avant technologique. Et qui fait que moi, quand j'ai découvert Link's Awakening, je l'ai fait en m'y confrontant, comme on se confronte aux grands classiques du jeu vidéo parfois. On se dit, il faut que je joue à ce jeu. Donc, je l'achète sur 3DS en 2011 quand il est réédité. Et je ne l'ai toujours pas fini à ce jour, parce que même si j'ai bien avancé dedans, quand même, il avait pris un coup de vieux. Il était vraiment rugueux. Le fait d'avoir que deux boutons pour gérer toutes les actions, on peut même pas avoir à la fois épée, bouclier, rapin, etc. Et donc, c'est quand même, je trouve, vachement important et vachement bien pour les joueurs contemporains de dire, je vais pouvoir découvrir ce jeu qui est quand même vraiment très important et vraiment génial profondément, mais je vais pouvoir enfin profiter totalement de la qualité de ce jeu avec les normes actuelles de souplesse. D'utilisation des joysticks, d'assignation
au bouton et tout. Le joystick, alors on va parler des détails qui fâchent, parce que visuellement je trouve qu'il est intouchable, les musiques, je l'ai dit, sont admirables, on en prend plein la figure, et j'adore ce côté puppets un peu jouet, comme on a parfois dans certains titres en réalité virtuelle d'ailleurs, cette disposition un peu théâtrale d'objets, je trouve que ça marche à merveille, le jeu est magnifique. Par contre, il y a quand même des trucs moi, qui m'ont saoulé. Moi, j'ai une cartouche, j'ai des loadings, tu charges dès que tu rentres dans un donjon, tu sors d'une maison, tu charges. Ok, d'accord, on sait que ça fait partie du... Mais on est sur une cartouche, tu vois, et je trouve que les chargements sont très réguliers, et puis des lags, des ralentissements, qui sont assez étonnants sur un jeu Nintendo.
C'est très étonnant.
Sur un jeu Nintendo où, en général, la finition est assez exemplaire. C'est vrai que Nintendo, on les connaît pour
Il n'y avait pas de ralentissement dans Breath of the Wild, en tout cas, pratiquement pas.
Et à la limite, plus compréhensible, entre guillemets, il y en avait quelques-uns dans les forêts ou des choses comme ça.
Là, on est quand même sur un jeu top-down.
Ça lag. Mais des fois, j'apprends même, je crois que c'est dans les marais où t'as des passages où c'est. Dès que tu as trop de personnages, ça lag. C'est pas la fin du monde, mais tu te dis mince, on est en 2019. C'est pas la hauteur de la proposition graphique et de l'ambiance. Et c'est un peu dommage. J'ai des petits regrets, tu vois. On parle du jeu Game Boy. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas, encore une fois, une éditorialisation de ce remaster. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des making-of, des artworks? Alors, la version collector à plus de 100 balles maintenant, mais j'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie d'avoir des choses dans le jeu. Et pourquoi pas la version originale sur Game Boy? Ça me manquait par la touche. Parce qu'en plus, c'est le même jeu. C'était tout à fait possible. S'il y a un jeu qui se prêtait à ça, c'était lui, c'est le même code, c'est le même jeu, je pense que ça pouvait se faire sans trop de complications. Ça n'y est pas, et j'aurais vraiment aimé, notamment en version portable, pouvoir y jouer. D'ailleurs, il est beaucoup plus beau en version portable. Quand tu le mets sur écran, je trouve qu'il perd un peu. Je trouve qu'il est quand même beaucoup plus beau en portable. Donc, pas de rétro version. Et moi, la croix, je trouve que c'est dommage. Alors, il est jouable que au stick analogique.
Oui, alors c'est vrai, on ne peut pas jouer à la croix.
Moi, je trouve que c'est peut-être moi. Je trouve que je fatiguais au bout d'un moment sur le côté analogique. C'est la lancée du pad analogique. Je vois que tu passes quand même pas mal de temps à te balader sur cette carte. Et à un moment, je fatiguais, même au contrôleur pro. Je trouve que j'aurais voulu à un moment revenir à la manette, à la croix, surtout sur un jeu comme ça, qui, encore une fois, c'est une ode à la version Game Boy. Donc pourquoi ne pas pouvoir jouer à la croix? C'est étonnant.
J'ai relancé du coup la version Game Boy avant-hier pour refaire le chemin à l'envers, comme on dit. Et j'ai trouvé ça à la croix sur Game Boy. Particulièrement dur après l'avoir fait quand même sur Switch.
T'as mal au doigt, genre, t'as des traces après. Ouais. Ça, puis le jeu, il a une mémoire de poisson rouge. C'est-à-dire que tu avances, t'es en open world, entre guillemets, t'avances. avances et les herbes repoussent derrière toi. Et moi, ça me rend fou. C'est-à-dire que j'ai un problème avec les herbes dans les Zelda, c'est que je passe mon temps à tout. Je vais avoir 2000 pièces dans mon. J'ai un problème avec ça. Je suis pas le seul. Je sais que ça arrive.
Oui, non, ça c'est. Et après, quand t'as l'appel, c'est un
drame. Mais du coup, je n'arrête pas. C'est-à-dire que je rentre dans une maison et je passe mon temps à désherber, en fait. Mais parce que le jeu te remet. C'est un détail. Voilà, on va pas. Non, mais la croix, ça m'embêtait. Et puis, il y avait aussi. Il y avait une grande nouveauté que moi j'attendais, qui m'avait fait vibrer lors du Nintendo Direct. C'était l'éditeur de donjons.
Qui est très limité finalement.
Et qui est super décevant, je trouve. Ouais, qui sert pas à grand chose. Pour resituer un petit peu, en fait, à chaque fois qu'on, dans le jeu, on finit un donjon, un vrai donjon du titre, on récupère une pièce que Igor, le personnage, nous file après et nous permet de créer nos donjons. Bah, ça apporte pas grand chose. Hein. On récupère des pièces, finalement, on reprend des pièces déjà croisées dans
le jeu.
Alors,
des pièces, c'est pas des pièces de monnaie, c'est des pièces des donjons.
Pardon,
des salles.
Des salles, exactement. Ouais. Des salles, et on fait son propre donjon. On a plusieurs défis comme ça à remplir. Ça sert pas à grand chose. On peut les partager via l'amiibo, mais bon, on est très très loin d'un Mario Maker. Oui. Ce sera peut-être pour une autre fois, hein, je pense. Mais c'est dommage parce qu'il y avait une porte ouverte. Peut-être qu'un jour on aura un vrai Zelda Maker en bonne et due forme.
C'est un jeu en soi aussi. Je pense.
Mais là, je trouve que ça sert pas à grand chose au final.
J'en profite quand même pour signaler à propos des donjons que moi, ils m'ont vraiment sidéré par leur qualité. Il y a des passages qui sont vraiment extraordinaires d'inventivité.
Mais le jeu a une finition en dehors de tous ces petits pets graphiques qui sont quand même là. Il faut bien le signaler parce qu'on est chez Nintendo et on n'a pas cette habitude-là de ralentissement et autres. Je trouve qu'il est... Puis il est attachant, il y a de l'humour dans ce jeu.
Il est extrêmement attachant, il est extrêmement émouvant. Même parfois par quelques phrases.
Marine, le personnage de Marine, tout ça.
Quand elle se confie et tout. Même le simple fait de croiser les gamins qui jouent au ballon, un gamin qui dit, qui donne une info, puis après qui dit, de toute façon, j'en sais pas plus, je suis qu'un môme et tout. C'est drôle et c'est touchant parce que c'est des gens, ils sont dans cette petite île comme ça, ils tiennent dans la poche et puis... Et puis ils vont disparaître à la fin du jeu et voilà.
Et ça ramène
c'est très émouvant
à cette référence à Twin Peaks avec des personnages bizarres, quelques personnages dans une ville, et c'est vraiment ce qui fait partie de cette expérience insulaire en fait.
Il y a quand même un point. On est sur un portage de jeu mobile. Zelda Link's Awakening, on est sur 10-12 heures de jeu.
Ça dépend de ta connaissance.
Mais gros, on est sur cette échelle-là. On n'est pas sur les 120 heures de Breath of the Wild.
Il n'est pas formaté pareil.
On est donc sur un reportage d'un jeu de 93. Donc le jeu existait déjà. On est sur un jeu vendu 60 euros.
C'est ce que je peux comprendre compte tenu de l'effort qui a été mis dans la...
Mais quand même. C'est quand même. On le met à côté de Breath of the Wild, quoi. On est sur cette échelle-là.
60 plus l'amiibo un peu irrésistible, vernis, qui sort en même temps. Je suis d'accord.
C'est un petit point où on est.
Je pense que c'est aussi une manière pour Nintendo de signifier qu'ils prennent pas ce truc à la légère, quoi. Que c'est pas juste on vous envoie.
Tu veux dire, c'est comme chez les psys, quoi.
Il est cher, donc il est bien.
Voilà, c'est ça.
Non, mais je suis d'accord sur le prix.
On vous envoie pas ce petit truc qu'on a fait à la va-vite pour...
D'accord avec toi. Par contre, dans ce cas-là, il faut qu'il soit nickel au niveau réel. Et ce n'est pas le cas. Les ralentissements et tout ça, ce n'est pas l'habitude chez Nintendo. Et là, je trouve que ça pique les yeux. Et pourtant, en général, je ne me bloque pas là-dessus. Mais là, vraiment, c'est très présent.
En tout cas, super expérience.
Et zéro patch, ce qui est rare d'ailleurs. Ça, qu'en général, tu as toujours un patch. Ça va peut-être arriver d'ailleurs. Ça peut peut-être se régler avec pas grand-chose finalement, ces ralentissements.
Super expérience. Donc, je suis curieux de connaître les réactions pour les gens qui auront découvert Zelda avec Breath of the Wild.
Ouais, voilà. Oula.
Je suis très curieux de savoir ce qui se passe quand on a découvert Zelda comme ça,
j'ai envie de
se plonger dans un Zelda comme celui-là.
Je pense qu'il conserve ce côté bulle scénaristique.
Quasiment. Enfin, j'ai joué à des Zelda avant, mais Breath of the Wild étant le premier Zelda que j'ai fini, j'ai déjà dit ici. Je trouve que il y a un truc qui fonctionne. Je le trouve très moderne. On le trouve très moderne dès le départ.
Dans l'écriture, tu veux dire, dans les personnages.
Oui, tout se comprend relativement vite. Après, il y a des choses. Il y a quand même un côté old school qui est...
La navigation.
Le fait de ne pas trop savoir, il y a ce hibou ou cette chouette qui nous dit où aller. Mais par exemple, moi, je vous donne un exemple de mon début de jeu pour dire à quel point j'étais un peu paumé parfois.
C'est normal.
On va où nous dit la chouette. Alors déjà, rien que pour trouver l'épée, donc la première arme, il faut comprendre qu'il faut pousser des bestioles avec son bouclier, ce qui n'est pas indiqué. Bon, mais finalement, vu qu'on a que ça à faire...
Si, il y a un petit panneau qui l'écrit.
Ah ouais, bah moi j'ai... Ouais, bah alors, il faut lire les panneaux.
Ah bah oui, il faut lire les panneaux. Là, j'ai mis tous les panneaux dans Zelda.
C'est mieux,
du coup,
quand même.
Ouais. Non, mais... Donc, bon, j'ai trouvé tout seul. Hein, excusez-moi, monsieur. Et en fait, après, bon, on nous dit... je le fais en accéléré. On nous dit, il faut faire le premier donjon. Machin, on a trouvé la clé. On va au premier donjon. Et en fait, moi, je trouve la plume dans le donjon. Ah, et en fait, je me dis, bon, c'est cool, j'ai fini le donjon.
Ah non, il faut la mettre dans le... Enfin,
non,
oui,
mais ça va, je l'ai fait après.
Ah, ça va, non, mais je sais pas, moi, où t'en es. Je sais pas où t'en es.
Non, mais c'est pour dire qu'il n'y a pas ce côté.
Il y a des conventions qui.
Il y a des conventions qui ne sont plus à jour. Hein.
C'est clair.
Et du coup, moi, je suis ressorti tout content du donjon avec ma plume. J'étais très content, je pouvais sauter.
Il y a ce côté Metroidvania aussi dans le jeu.
Et j'avais vu, il y avait plein d'endroits où je pouvais pas aller. Et donc, du coup, j'ai exploré toute la carte. Là où je pouvais pas aller avant, où j'ai sauté par-dessus des trous, et donc j'ai ouvert
plaisir,
la carte.
C'est plaisir quand tu découvres un nouveau truc.
Et en fait, avant de me rendre compte, bah oui, mais j'ai plus rien à faire. Où il est le hibou? Il me dit plus rien. Et donc du coup, j'ai mis vachement longtemps.
T'as la bibliothèque qui est utile dans ces cas-là aussi. Enfin, où t'appelles, où t'as le téléphone.
Pépé le Ramolo.
Et du coup, j'ai mis vachement longtemps à me dire, mais du coup, peut-être que la plume, c'était pas la fin du donjon. Et donc, 10-15 minutes après, je suis retourné au donjon.
C'est symptomatique, tu vois, du côté old school. On n'est plus forcément habitué comme ça à avoir des... Peut-être un manque d'outils pour nous aiguiller. C'est vrai que t'es un peu lâché là-dedans, mais ça fait partie du plaisir du jeu.
Mais comme le disait Franz, la qualité incroyable des donjons qui sont pas forcément infaisables ou compliqués ou
non, pas du tout
ça, mais c'est juste
le système de progression dedans est hyper abouti,
c'est satisfaisant.
Puis les énigmes, t'as des petites énigmes à droite à gauche, enfin c'est une vraie sucrerie, vraiment.
Zelda Link's Awakening sur Switch. Et on va terminer avec la curiosité du moment, ce jeu un petit peu incontournable dont tout le monde qui a une sorte d'aura qui l'a précédé par ses trailers, par ses annonces, par peut-être son studio. Voilà, ça fait partie, c'est peut-être la nouvelle perle indé, enfin voilà, qu'on recherche un peu de régulièrement. Et là, c'est un jeu de loi, ça s'appelle Untitled Goose Game. Ce piano, c'est un truc de dingo.
C'est du Debussy dynamique.
Ouais, il faut voir que pour la composition de cette bande originale, en fait, ils ont découpé comme ça en séquences, et en fonction des actions du joueur, la musique, le tempo va changer, mais il y a ce piano qui continue.
C'est organique,
de jouer.
Quoi. Il n'y a pas de rupture dans le.
C'est très. C'est un peu comme.
Ape out.
Voilà, merci. Il y a un côté ape out là-dedans, et aussi au niveau du graphisme avec ses aplats de couleurs. D'ailleurs, on retrouve comme ça ce côté de 3D aplati avec des couleurs très
sorte de ligne claire
voilà exactement et effectivement beaucoup de points communs en tout cas visuels et sonores avec Ape Out dans ce jeu de loi sans nom et donc c'est quoi tes premières enfin qu'est-ce qui se passe quand on commence France
la première action du jeu c'est honk donc pousser un cri de loi.
Cacardé,
c'est ça.
Cacardé. Alors, il faisait juste une petite parenthèse. Il n'y a pas ce jeu de mots qui existe en anglais avec honk qui veut dire aussi klaxonner. Oui, en fait.
Je trouve ça beaucoup plus drôle. Ouais. Quand c'est écrit press Y to honk, c'est extrêmement drôle. Alors, rien que le début du jeu comme ça, c'est très drôle. Donc, c'est la première chose qu'on fait. Puis on découvre qu'on est donc une oie dans une mare, comme une oie qui se respecte. Et donc, on commence à se promener dans la mare. Et là, déjà, première sensation, c'est hyper agréable de se promener dans une mare en tant qu'oie.
Ça a toujours été un rêve caché.
Un rêve qu'on ignorait en fait. Et ce qui est fou, je trouve, c'est que les animations de l'oie, déjà dès le départ, sont extraordinaires. Et on se sent vraiment incarner cette oie, quoi. Je trouve que le jeu est très réussi là-dessus. Et après, on découvre qu'en fait, c'est concrètement un Hitman où on incarne une oie. En fait,
c'est toi.
C'est ça le principe du jeu, quoi. Moi, ça me fait vraiment beaucoup penser à Hitman.
C'est loi 47.
Voilà, c'est loi 47. Puisque donc, le but du jeu, on arrive dans un petit village anglais. Et où tout le monde va casser ses occupations dans son petit jardin. Un gamin qui joue avec un avion, un ballon, une dame qui fait une brocante, ce genre de choses. Et on arrive là-dedans et on va semer le chaos, comme dans GTA presque, en rendant tous ces humains fous. Et c'est très drôle et en même temps, c'est assez triste aussi par moments. Moi, j'ai parfois de la peine pour ces gens à qui j'ai
pour
ruiné la vie.
Ouais.
Ouais, non, mais c'est vrai. Hein. Ouais. J'ai ressenti beaucoup.
Ça va jusqu'où, du coup, tu peux, tu leur pourris la vie.
On est sur le pourrissage de vie. Ouais. Hein, on est clairement là-dessus. On n'est pas sur l'atteinte à l'intégrité physique.
Non. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessure.
Voilà.
Même loi n'est pas.
Non.
Tout va bien.
Impossible de mourir, impossible de tuer.
Très bien.
C'est la différence avec. Alors, la parenté avec Hitman est évidente. Côté où il y a une sorte de routine autour de nous, que si on est immobile, finalement tout le monde continue sa routine, et qu'on est là comme une sorte de
chaos,
grain de sable et tout ça, et que on va essayer comme ça de... Alors on a une feuille de mission à chaque nouveau niveau, donc ça va avec des choses à faire, il faut mais avec des choses qui te paraissent totalement incongru dès le départ. C'est, on arrive à un niveau, le deuxième, et il y a une des missions, c'est faire en sorte que quelqu'un achète ce qu'il possède déjà. T'es là.
Ah, c'est un peu cryptique. D'ailleurs, comme dans le Zelda, d'ailleurs, on l'a pas précisé, mais il y a certaines indications parfois qui sont un petit peu cryptiques. Ouais. Ça peut contribuer. Voilà, c'est une parenthèse que je referme. Mais ah oui, ça te laisse. Il faut que tu comprennes ce que tu dois faire.
On est sur voilà, et on y arrive. Hein, on y arrive, mais c'est voilà, il y a des missions comme ça avec pris à la main dans un petit carnet et qui sont rayées au fur et à mesure qu'on les complète.
Ouais. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, souvent, on est un peu. Moi, enfin, alors, c'est un reproche que je commençais à faire au jeu. Dès le premier niveau, il y avait un truc, je ne voyais vraiment pas comment m'y prendre. Il fallait faire en sorte que le jardinier mette un chapeau
de soleil.
Un chapeau de soleil. Et je ne voyais vraiment pas comment m'y prendre. Et le jeu ne donne aucune indication concrète. La seule indication que le jeu donne, c'est quand on s'approche d'un objet avec lequel on peut interagir. Il y a des petits traits dessus, donc on sait qu'on peut, on peut l'attraper. Voilà. Mais. Au-delà de ça, parce qu'en fait, les actions de loi sont assez limitées. Hein.
Ouais.
Concrètement, on peut cacarder, on peut prendre des objets et courir avec, et on peut après battre des ailes pour.
Il n'y a rien de contextuel, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment.
On peut prendre des objets.
Ce qui est contextuel, c'est l'interaction avec les objets de l'environnement. On peut cacarder sur les gens pour faire peur à certaines personnes.
Les faire bouger, du coup.
Ouais, voilà, par exemple, pour les pousser à un endroit.
Là, en l'occurrence, comment tu t'en es sorti alors
En fait, il fallait attendre que le. Il fallait. Ouais. Je donne la solution, du coup, mais bon.
Attendre qu'il se baisse pour faire des travaux dans son jardin.
Voilà. Il fallait d'abord retirer une cagette qui se trouvait quelque part dans le jardin pour qu'il se baisse, qu'il voit qu'il y avait un trou dans la haie. Donc, du coup, il se baisse pour regarder la haie. Et là, du coup, c'est l'occasion d'attraper son chapeau. Et là, du coup, il va mettre l'autre chapeau. Mais donc, ça, le deviner, il faut quand même y aller. Quoi.
Ah ouais, c'est un peu tordu.
C'est plus ce genre de choses qu'on découvre limite par hasard. Mais après, cela dit, dans la plupart des cas, en fait, la solution est vraiment très simple. Il suffit simplement de se poser la question. Qu'est-ce qui peut amener cette personne à faire cette action? Et bien souvent, la réponse la plus évidente est la meilleure, en fait.
Oui. Ouais. Et sachant que pour passer un niveau, alors je ne sais pas si c'est une règle absolue, moi j'en ai fait 3, je crois qu'il y a 5 niveaux en tout, quelque chose dans le genre, mais il suffit de remplir pas forcément toutes les missions.
Oui, on peut en laisser une.
Pour qu'une mission, en fait, dès qu'on a fini toutes les missions sauf une, il y a une mission de transition qui va ouvrir la porte, ouvrir le chemin vers le niveau suivant qui se met en place. Moi j'ai ce chapeau de soleil, j'ai toujours pas réussi parce que j'ai eu aussi la flemme d'attendre, parce que les routines, les problèmes c'est que les routines de ce jeu peuvent être assez longues. Moi je donne un exemple, il y a dans la première mission, celle du jardinier, on doit faire un pique-nique, donc on doit ramener plein de choses sur une table de pique-nique. Voilà, les missions sont un peu idiotes, et donc on doit voler plein de choses au jardinier pour construire son pique-nique, dont une radio qui a la bonne idée de s'allumer dès qu'on la prend. Et donc alors pour ramener la radio discretos au pique-nique, c'est un peu pénible. Et donc ce qui se passe, c'est que tu prépares ton pique-nique, et en tout cas moi ça a été ma solution, et j'ai pris la radio à la fin, et puis après il m'a couru après, et donc moi j'ai posé la radio sur le pique-nique, j'ai eu la mission remplie, et voilà, je passe à autre chose. Sauf que là, le jardinier auquel je n'avais, qui n'avait toujours pas son chapeau de soleil, a vu tout ce qu'il y avait sur la table de la table de pique-nique.
Il a entrepris de tout ranger.
Et il a entrepris de tout ranger.
Ah, c'est bon.
Et donc là, moi j'avais pas, je suis désolé, mais j'ai pas 8 heures à attendre que il se mette à tout ranger et donc moi je suis passé au niveau suivant. Ouais. C'est voilà. Mais pour dire qu'il y a des petits des petites longueurs, on va dire.
Pourquoi une noix? On sait ou...
Alors, j'ai lu un article sur le site Australian Junkie, puisque donc, l'équipe de développement est une équipe australienne qui s'appelle House House. Mm. C'est leur deuxième jeu. Mm-hmm. Et donc, dans cet article, un des créateurs du jeu disait que le point de départ du jeu, c'était qu'ils avaient rigolé en voyant une stock photo d'oie. Voilà.
Okay, d'accord,
et que donc, à partir de là, ils se sont dit, il faut qu'on fasse un jeu où on joue une oie. Donc c'est aussi simple que ça.
D'accord.
Et, et voilà. Et pour l'anecdote sur la musique aussi, en fait, ils avaient prévu à la base, ils n'avaient pas prévu de mettre de la musique à la base. Hein. C'est un trailer où du coup les gens ont réagi sur la musique en disant c'est incroyable et si cette musique est dynamique, c'est vraiment génial. Et du coup, ils se sont dit
pour mettre une quand même.
Parce que voilà.
Ok.
Moi, franchement, il est déjà superbe esthétiquement, au niveau des sons, c'est génial. Il y a très 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 bonnes idées. C'est, je pense que il y a un truc moi qui m'a gêné, c'est le côté très scolaire des missions à réaliser en parallèle avec ce truc un peu émergeant qu'on n'a pas envie d'être scolaire hein, quand on joue une oie dans un quartier, on n'a pas envie de faire ce qu'on nous dit de faire et je trouve que ça manque un petit peu d'achievement qui pop, c'est-à-dire en fonction de ce que t'avais dans le décor, c'est cool, t'as réussi à faire un truc, et en fait des sortes de missions que t'avais imprévues, en fait ça manque d'imprévu.
C'est pas Goat Simulator quoi.
Non.
Ouais, enfin c'est
disons qu'on peut pas pousser le chaos au-delà de ce que le jeu a prévu quoi.
Exactement. Ouais. C'est voilà, merci d'avoir trouvé des mots sur ce que je voulais dire. Et du coup, on
est cadré finalement. C'est
on est cadré.
Ouais, là, c'est cadré. Ouais.
Et on perd parce que dans le premier niveau, on a la banane. Hein. Franchement, moi, c'est ce que ça m'a fait. C'est-à-dire, on rigole. Enfin, on est là, ouais, c'est cool et tout ça. Et plus ça avance, et moi, je sais qu'au troisième niveau où on doit embêter un monsieur qui prend son thé avec sa voisine et tout ça, et ben là, c'est devenu scolaire, on s'est dit bon, il doit recracher son thé. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Et là, on devient agent 47 en fait. Je trouve qu'à partir du troisième niveau, le truc est tellement scolaire qu'on se commence à penser un peu comme.
Et puis dans le délire de créer des choses, de créer des situations.
Moi, j'ai moins été, moins eu ce plaisir un peu naïf, un peu de la découverte qu'il y avait au début. Et je trouve que ça s'épuise finalement assez vite, alors que le jeu reste très bien fait. C'est une très belle réalisation. Moi, j'ai pas eu de problème avec
en
ça.
En fait, l'OA devient de plus en plus machiavélique au fur et à mesure que le jeu avance et au fur et à mesure du
Alors, il n'est pas très, très long, hein, mais...
On comprend les mécaniques qui vont rendre les gens fous. Donc, ouais, c'est ça.
Et voilà, j'ai moins été convaincu sur le déroulement. Mais alors, par contre, là, pour le coup... C'est un peu il a ce statut de Ape Out de jeu indé qui débarque et qui est immédiatement incontournable parce qu'il propose un truc étonnant en fait.
Je trouve que il a une patte quoi,
des vrais choix ludiques graphiques et tout ça, vraiment impressionnant.
Donc PC et
Switch.
D'accord.
Untitled Goose Game. Eh bien c'est fini avec les jeux vidéo pour cette semaine. Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, chers amis. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Franz?
Eh bien, moi, je viens de finir la série Mindhunter, dans la deuxième saison. En fait, j'avais commencé à regarder la première saison quand elle était sortie en 2017. Et au bout du deuxième épisode, je m'étais dit, je vais regarder les épisodes de David Fincher, puis après, je verrai. J'avais arrêté en me disant, bon, en fait, j'ai pas tellement envie de voir juste des entretiens avec des tueurs en série. Voilà. En fait, j'avais pas du tout compris que la série était beaucoup plus profonde que ça. Et donc, je m'y suis remis avec la sortie de la deuxième saison, qui est des très bonnes critiques. Et en fait, je trouve ça vraiment très, très, très bien. Voilà. Donc, je le conseille. Je trouve ça si bien que, du coup, j'ai recommencé à la première saison après avoir fini la deuxième. Je trouve c'est vraiment très, très fort dans la... justement dans cette c'est une série qui se contente en fait d'être juste des dialogues, mais ils sont filmés d'une telle manière que, c'est vraiment très fort et je trouve que la manière dont alors c'est moins vrai dans la deuxième partie de la deuxième saison où il y a une enquête vraiment qui accapare les mecs du FBI, mais la manière dont la série a su développer des intrigues parallèles, des enquêtes parallèles, etc. Certaines qui durent épisode par épisode Je trouve que c'est vraiment très bien construit et très intéressant.
Et Emmanuel Macron joue super bien.
Emmanuel Macron est un formidable acteur.
Ouais. Ah, il y a un sosie, c'est ça.
Ouais, un des personnages principaux est un sosie d'Emmanuel Macron, ce qui est très perturbant.
C'est sans doute
une des raisons pour lesquelles j'avais aussi un peu lâché la série. Très, très perturbant.
Ouais. J'imagine.
Patrick.
Alors moi, je suis allé au cinéma, je suis allé voir la deuxième partie de Ça, It, adapté de Stephen King.
Ah, j'ai vu passer un tweet.
Ouais, bof. Alors, moi, je reste un inconditionnel de Tim Curry. Vous savez, le nanar, le téléfilm de 90, mais Tim Curry, quoi, qui jouait le clown, moi, je trouve, Tim Curry, il est irremplaçable. Malgré tout. Alors, elle n'est pas géniale, cette adaptation. Un peu trop dans la démonstration. Mais j'ai vécu une des pire scène d'horreur de toute ma vie au cinéma.
Une scène qui m'a
fait trembler, qui m'a fait crier dans la salle, où tout le monde m'a regardé, mais qu'est-ce qui... Parce que j'ai flippé, j'ai eu peur. Imaginez la scène, on est dans une reconstitution, une salle d'arcade en 89, traveling, les joueurs, tout ça. Et d'un seul coup, au détour d'un plan de caméra, qu'est-ce qu'on voit? Une borne d'arcade Mortal Kombat. En 89. Alors, ok. C'est pas possible. Alors, ça paraît anodin comme ça, mais bon sang, un film de cette production. Ouais. Tu vas faire un tour sur Wikipédia, tu vois tout de suite Mortal Kombat 92. Et quand t'es un petit peu, voilà, c'est un titre important. On parle pas d'un jeu de série Z. Non, c'est Mortal Kombat aux États-Unis. C'est un vrai monument, quoi. Dans une salle en 89, je comprends pas, je ne saisis pas. Alors, est-ce qu'on va apprendre qu'en le voyant en Blu-ray, je pense pas que je le reverrai, mais peut-être qu'il y a un clin d'œil avec Pennywise qui apparaît dans la salle, la borne, mais je ne pense pas. Non, je pense que c'est vraiment une boulette. C'est dingue la force dont ça m'a tiré du film. Ça m'a sorti. Ouais. J'ai commencé à en parler autour de moi dans la salle, on me dit, mais on s'en fout, de quoi tu nous parles, Tom? Et je dis, mais vous rendez pas compte, Mortal Kombat en 89, c'est pas possible. Non, mais c'est. Ça te pète, tu sais, cet engagement que tu as avec la fiction. Oui. Quand tu as une erreur comme ça, fondamentale, tu sors complètement du film. Et je me suis rendu compte de la force du truc où j'étais plus du tout dans le film. Ça m'a cassé le. Parce que c'est énorme. On parle pas de. Tu vois, tu peux avoir des discussions sur un mois de sortie. Est-ce que c'était mars ou juin ou juillet? Bon, ok, admettons. Mais là, non, on est sur un décalage de 3 ans. Ça pique, hein. Du coup.
Je suis désolé pour toi, Patrick. Je suis vraiment. Ça me touche sincèrement.
Non, ça m'a vraiment brûlé les yeux. Moi, j'aurais fait une affaire d'État. Enfin, faut pas non plus, c'est du cinéma. Mais quand même, enfin, bon sens, c'est quand même pas compliqué. Et j'imagine que ça, c'est un domaine que je connais bien. Mais je me dis, les fanas de bagnoles, les fanas de trucs doivent parfois voir des choses qui, pareil, les sortent de. Tu vois, d'un bug comme ça. Bon.
Dans la matrice.
De la matrice, ouais.
Moi, pour ma part, je vais parler d'un livre qui est sorti cette semaine. C'est « Ce qui est sans être tout à fait ». C'est un essai sur le vide d'Étienne Klein, donc le grand vulgarisateur devant l'éternel, et avec qui a son émission sur France Culture, qui est très bien, qui s'appelle « La conversation scientifique », que je conseille. Et donc, il a fait un essai sur le vide, cette notion physique qui est... Et c'est génial. Alors, j'ai fait une interview qui est parue le week-end dernier sur Libération. Superbe illustré, mais c'est dingo, par Hassen, je crois, le dessinateur. Bref, c'est pas le sujet. Donc, c'est l'histoire du vide, toutes les questions que pose le vide, où j'ai appris que, par exemple, jusqu'au XVIIe siècle, le fait que le vide existe, c'était pas gagné. Parce qu'il y avait notamment un certain Aristote qui avait décidé que non, le vide n'existait pas, à l'Inquisition, ça ne lui plaisait pas trop, cette histoire de vide. Parce
c'est quoi
que,
le vide?
Le vide, c'est... Alors, c'est une bonne question, parce qu'en fait, alors je vous conseille de lire l'interview et je vous conseille de lire le livre, parce que en fait, le vide résiste à peu près tout exercice de définition. Simple.
Il
y a une différence entre le vide et le néant, en fait, c'est... Le vide est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide.
Voilà, c'est une très bonne définition. C'est très clair.
Maintenant, je vous laisse avec ça et je vous conseille de lire ce livre d'Étienne Klein, donc « Ce qui est sans être tout à fait ». Merci à tous les deux. À la réalisation, c'était Kevin Pogam. Merci aux équipes de RMC de nous accueillir dans leur studio. Je le fais pas souvent, mais je vais le faire quand même cette fois-ci en début de saison pour vous dire que si vous voulez faire connaître Silence en Joue, si vous voulez répandre la bonne parole, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast et sur vos applications préférées. Voilà, parce que en fait, on est là depuis 13 ans, donc les gens, ils sont là, ils ont l'impression qu'on est là depuis toujours et que on n'est pas un petit nouveau podcast qu'il faut aider à se développer et tout ça. Mais oui, parce que nous aussi, on a besoin aussi de se faire connaître. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine sur les internets et sur libération.fr. Ciao.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.